Alors je voudrais maintenant me rapprocher un petit peu plus précisément de cette mémoire de l'esclavage. Dans le mouvement d'ensemble de la reconnaissance croissante des mémoires particulières, on peut constater que la mémoire de l'esclavage est devenue un formidable enjeu d'identité collective et acquis par là une très forte dimension politique. Alors se pose dès l'abord une question cruciale sur laquelle je voudrais dire d'abord quelques mots, celle de l'existence, parce que ça a été souvent mis en avant par certains analystes et acteurs de cette mémoire, celle de l'existence en cette matière d'une amnésie collective, surtout d'ailleurs dans les colonies françaises, où on constate, selon certains, des formations sociales qui sont sujettes à une pulsion d'assimilation et qui, à ce titre, refusent d'assumer leur histoire douloureuse. Alors, ce que l'on peut également remarquer, c'est que ceux qui flétrissent cette occultation de la mémoire de l'esclavage insistent toutefois également sur la force d'impact du passé esclavagiste, sur sa longue résonance et sur le façonnement du présent au sein d'une souffrance qui ne passe pas. J'emploie là volontairement une expression qu'un historien français a employée à propos de Vichy, un passé qui ne passe pas. Bon. Donc une souffrance qui ne passe pas. On retrouve ici donc un schéma général qui encadre aujourd'hui un certain discours relatif à la mémoire coloniale, dont la mémoire de l'esclavage constitue sans doute la figure paroxystique. Affirmation, selon le modèle psychanalytique dont il vient d'être question, affirmation donc d'un trauma issu d'un passé qui n'est pas réglé, alors même qu'il n'en finit pas de persister dans ses effets. Alors ce que l'on peut dire lorsque l'on examine, disons, cette affaire, c'est que le récit national français, tel que les historiens parlent relais des manuels scolaires, tels qu'ils ont été établis surtout au niveau de l'école publique à partir de la fin du XIXe siècle. Et on peut rappeler en la matière le rôle d'un historien qui s'appelait Ernest Clavis, qui a été vraiment le maître d'œuvre de ce récit national à la fin du XIXe siècle. Eh bien, ce récit national, jusqu'à une époque récente, a été étrangement peu loquace par rapport à l'esclavage. Seule l'abolition y était mentionnée, et encore de manière marginale. Il y avait là, en quelque sorte, une zone de silence, ce qu'on pourrait appeler un point aveugle, que la science historique française elle-même, dont le champ de recherche est bien sûr surdéterminé par des contingences sociales, identitaires et mémorielles, s'était révélée incapable de réellement investir jusqu'à ces dernières années. Bien sûr, là, les choses ont changé depuis, parce qu'il y a eu quand même, depuis ces dernières décennies, beaucoup de travaux qui ont porté sur l'esclavage. Josette Fallop a été l'une des pionnières en la matière. Bon, et puis ensuite, il y a eu toute une série d'autres travaux plus récents. Alors, ce que l'on peut se demander, pour revenir à cette absence de l'esclavage dans le récit national français, c'est est-ce qu'il y a eu véritablement ce qu'on pourrait appeler une politique de l'oubli qui a été officiellement instituée par le pouvoir colonial au fondement de l'entrée dans le cercle de la citoyenneté républicaine imposant du même coup l'amnésie. Alors une politique publique d'oubli, volontariste en quelque sorte, semble bien caractériser l'attitude du pouvoir colonial français durant, disons, toute la seconde moitié du XIXe et une bonne partie du XXe siècle. Et cela est illustré par la première déclaration que fait le gouverneur de la Martinique, Rostolan, suite à l'abolition, lorsqu'il dit « Je recommande à chacun l'oubli du passé ». Mais ce que l'on peut se demander, c'est est-ce que du même coup, les ressortissants des vieilles colonies où l'abolition venait d'avoir lieu, à savoir donc Antilles et Réunion, Est-ce que pour le coup, ils ont, en quelque sorte, subi de manière passive cette injonction mémorielle, ou est-ce qu'ils ont quand même conservé quelque chose ? Alors, si mes souvenirs sont bons, les travaux de Jean-Pierre Sainton montrent bien la récurrence du thème de l'esclavage dans les affrontements politiques à la fin du IXe siècle, montrant donc bien qu'il restait bien quelque chose à ce moment-là. Et le sociologue Michel Giraud a pu, quant à lui, contester cette thèse de l'amnésie, rejeter le terme d'oubli, interprétant finalement le refoulement du passé servile, non pas comme un oubli, mais comme une certaine forme de mémoire, évoquant davantage un refus de remémoration, la blessure fondatrice impliquant une certaine mise à distance dans les consciences, en phase, en quelque sorte, avec une volonté des masses antillaises d'en finir définitivement avec l'esclavage pour mieux accéder à l'égalité citoyenne. Alors, moi, ce que je dirais de manière plus simple, peut-être, c'est que dans son segment majoritaire, issu en grande partie de l'ancien secteur servile, la société post-esclavagiste est certainement restée imprégnée d'une mémoire de l'indicible, une mémoire qui se disait peu, mais qui n'en a pas pour autant disparu. Ce qui rejoint d'ailleurs les conclusions récentes de Christine Chivallon à propos de la Martinique, dans son ouvrage « L'esclavage du souvenir à la mémoire », lorsqu'elle s'intéresse en particulier à l'insurrection du Sud. C'est précisément parce que l'oubli n'a pas été généralisé que peut toujours se manifester cette sourde présence du passé, cette sourde présence de l'esclavage passé à laquelle je faisais allusion il y a un instant.